7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Depuis quelques jours, la période inédite que nous traversons a un nom, il s'agit du grand confinement. C'est le FMI qui l'a désigné ainsi au moment de dresser un premier tableau de la crise économique planétaire qui s'apprête à en découler. L'institution financière table en effet sur une contraction de 3% du PIB mondial en 2020 avec des conséquences sur les 5 continents. Et pour évoquer cette situation absolument inédite, nous sommes en compagnie de l'économiste François Bourguignon. Bonjour.
Bonjour.
François Bourguignon, vous êtes ancien économiste en chef à la Banque mondiale. On va faire un tour d'horizon de cette situation, je l'ai dit, inédite et de ses conséquences pour la France, pour l'Europe et puis pour le monde. Mais avant cela, j'aimerais votre analyse de cette information étrange. Les prix du pétrole sont devenus négatifs, comme il est aujourd'hui difficile de le stocker, comme plus personne ne veut de pétrole. Eh bien, celui-ci est devenu négatif. S'agit-il de quelque chose d'anecdotique ou bien cette situation pourrait-elle avoir différentes conséquences économiques pour nous et puis pour le monde ?
Non, je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est parfaitement anecdotique, qui est en plus tout à fait local. Ça se passe à New York. Quand on prend le prix du Brent en Europe, il est toujours aux alentours de $25. Donc en fait, c'est simplement effectivement une sorte de malchance par lequel les producteurs ont des tas de barils à écouler, alors que les raffineurs ont leur stock complètement plein, ils ne peuvent pas accepter un baril supplémentaire parce qu'ils ne débitent pas suffisamment à cause de la baisse de la demande due au confinement. Donc en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait anecdotique et temporaire. Si ça ne l'était pas, je suppose que les écologistes s'arracheraient les cheveux.
Bon, disons que ça rajoute encore un élément à ce tableau absolument inédit. François Bourguignon, est-ce que cette crise vous fait penser, je ne sais pas, à la crise de 1929 ou bien à celle de 2008 ?
Écoutez, je pense que la crise de 1929 était vraiment extraordinairement grave. On a tout de même eu une chute du produit intérieur brut qui a été sur 2-3 ans de 20%. On n'en est pas encore là. On a une chute qui, à mon avis, devrait, vers la fin de l'année, être plutôt vers 10%, je pense. Mais tout dépend de ce qui va se passer l'an prochain. On est évidemment face à l'incertitude du virus. Si jamais il devait y avoir une deuxième vague, alors là, on serait dans une situation qui serait proche de la situation de 29-30. Mais pour l'instant, je pense que
du point de vue de la contraction du PIB.
Du point de vue de la contraction du PIB. Mais la contraction du PIB, ça entraîne toute une série d'autres choses. Ça signifie que l'activité a diminué, ça signifie que c'est difficile de reprendre, ça signifie qu'il y a des faillites qui s'enchaînent les unes aux autres et qu'on s'enfonce pendant un certain temps dans une sorte de cercle vicieux jusqu'à toucher le fond. Bon, j'espère que ça n'est pas ce qui va se passer. Je crois qu'il y a une énorme différence par rapport à cette époque-là. C'est le fait que le gouvernement ou les gouvernements dans les pays développés sont intervenus très rapidement, ce qui n'avait pas été fait du tout en 29, et même les politiques de 29 étaient exactement le contraire des politiques poursuivies aujourd'hui, qui sont des politiques qui mettent de l'argent dans le système, qui compensent les agents, que ce soit les entreprises, que ce soit les particuliers, pour le manque à gagner dû cette fois-ci au coronavirus. Donc la situation, il me semble assez radicalement différente. Donc, je ne comparerai pas à 29.
Quant
à 2008, là aussi, la situation est assez différente dans la mesure où 2008 était une crise qui venait du secteur financier. Effectivement, on n'a pas su pendant un certain temps ce qui se passait véritablement. On a mis peut-être un peu plus de temps à réagir, mais on a effectivement appliqué les mêmes recettes, c'est-à-dire d'augmenter très fortement la liquidité pour être sûr que personne n'aurait des problèmes de paiement dû au manque de monnaie et finalement la crise en termes de chute du produit intérieur brut n'a pas été aussi forte que ce que l'on observe aujourd'hui. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est le fait que la crise à laquelle on est confronté aujourd'hui, qui dont l'origine est plus ou moins derrière nous, espérons qu'elle est derrière nous, espérons que on est maintenant, on a abordé la phase descendante de l'épidémie. Mais cette crise, elle est due en même temps à un choc d'offres. Il y a moins de gens pour travailler, mais elle est aussi due à un choc de demande. Donc, pour la première fois, alors que les crises précédentes étaient surtout des chocs de demande. Donc, on a cette fois-ci eu une sorte de combinaison qui était effectivement tout à fait inédite. De se retrouver avec une population mise à l'arrêt, mise au congélateur pratiquement.
Absolument.
C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et donc, une partie de la crise, ce n'est pas parce que soudainement les gens ont décidé qu'ils ne consommaient plus, qu'ils ne voulaient plus rien acheter et qu'il fallait changer de régime, il fallait changer de système. Peut-être que certains d'entre eux le pensent. Mais surtout, les gens ne pouvaient plus acheter et certaines entreprises ne pouvaient plus produire. Donc, c'est plutôt un choc d'offres qu'un choc de demande.
Et oui, c'est ça, en fait, la situation particulièrement inédite, c'est que les gens qui voudraient éventuellement acheter ne le peuvent pas, qu'ils veuillent acheter des biens ou des services, c'est aujourd'hui, la plupart du temps, impossible. Et ceux qui voudraient produire, qui sont en situation de le faire, eux aussi ont des difficultés pour le faire. Peut-on imaginer néanmoins, François Bourguignon, vous qui étudiez les mécanismes économiques, peut-on imaginer qu'au bout de ces 2 mois de confinement, eh bien, puisque nous serons à nouveau en mesure d'acheter, que d'autres seront à nouveau en mesure de produire, on revienne à la situation initiale ?
Je pense que c'est un vœu pieux.
Pourquoi ? Expliquez-nous.
Le retour à appelons ça la normale, là où on était auparavant, ne va se faire que de façon relativement progressive. D'une part, je pense qu'il restera une certaine frilosité de la part des consommateurs par rapport à leur comportement. Toutes choses égales par ailleurs, je pense que parce que la pandémie sera toujours quelque part, parce qu'on entendra pratiquement tous les jours qu'il y a tout de même un certain nombre de gens qui sont infectés et malheureusement encore un certain nombre de décès, les gens ne reprendront pas immédiatement leur comportement de consommation normal. Deuxièmement, il y a un certain nombre de types de consommation qui vont peut-être pas être complètement arrêtés, mais vont être complètement modifiés. On ne va plus voyager en train, en avion, de la même façon qu'on le faisait auparavant. On réfléchira 2 fois avant de faire un voyage. On réfléchira 2 fois avant d'aller au cinéma parce que il faut encore mettre au point les mesures, les distanciations sociales pour aller au cinéma. Même chose au théâtre. Donc il y a toute une série de services qui vont être considérés comme un peu dangereux de la part de la population et ces services ne vont pas se remettre à fonctionner à plein comme c'était le cas auparavant. Pensez aussi à toute la restauration et l'hôtellerie.
François Bourguignon,
ça va continuer. Oui, pardon.
Si je vous suis bien, il y a toute une série de secteurs qui, après le confinement, ne vont pas pouvoir fonctionner normalement. Est-il envisageable que l'État continue d'une manière ou d'une autre à les aider pour que ceux-ci ne fassent pas faillite, de la même façon qu'en 2008, par exemple, on a décidé que les banques ne devaient pas faire faillite?
Je pense que c'est quelque chose de ce type-là qui va arriver. On ne peut pas effectivement laisser trop de gens, trop d'entreprises, même des petites entreprises de services, dans le spectacle ou dans la restauration, faire faillite. Donc il faudra bien qu'il y ait un plan de soutien à cette industrie. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va nous accompagner probablement au moins jusque vers la fin de l'année. Et si il n'y a pas de remontée du virus, Je pense qu'effectivement, l'an prochain devrait voir un retour à peu près à la normale. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, on va encore voir les séquelles de cette crise à cause du phénomène que je viens d'indiquer.
Alors, s'il s'agit de financer, on reste sur le cas français, François Bourguignon, s'il s'agit de financer cela, on va le financer par de la dette, comme d'ailleurs l'a expliqué Anne-Laure Jumet, et on passerait d'une situation où notre endettement est aux environs de 100% du produit intérieur brut à 115% du produit intérieur brut. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que cela pose de vrais problèmes, François Bourguignon?
Pour l'instant, je pense que ça ne pose pas vraiment de problème. Le grand élément dans l'évaluation de la dette, ce n'est pas le montant de la dette lui-même, c'est quel est le service de la dette. Combien on paye pour assurer le service de cette dette, c'est-à-dire quel est le taux d'intérêt que l'on paye sur cette dette. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très très faibles. Si on prend les obligations à 10 ans émises par l'État, on est, dans le cas français, légèrement positif. Dans le cas allemand, on est encore négatif. Et donc, on peut imaginer que parce que la dette augmente, il y aura peut-être une augmentation d'un dixième de pourcent ou de deux dixièmes de pourcent de la dette, mais le service de la dette ne va pas se modifier. Vous avez peut-être vu que pour 2019, pour l'exercice 2019, l'État a fait 2 milliards d'économies sur le budget prévu parce que justement le service de la dette a été très inférieur à ce qui avait été prévu.
Donc c'est une situation qui est viable aujourd'hui, mais qui va avoir des conséquences. Et justement, on va se retrouver dans une vingtaine de minutes, François Bourguignon, vous qui êtes ancien économiste en chef à la Banque mondiale, pour voir quelles sont les conséquences de ce taux d'endettement et puis quelles conséquences cette situation va avoir sur la planète, sur le plan économique.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Comment réveiller l'économie mondiale après le confinement de 3 milliards de personnes pour une durée relativement longue? C'est la grande inconnue de la période que nous traversons en l'absence de précédents historiques. Tous les scénarios sont envisageables, même s'il semble de plus en plus difficile d'échapper à la perspective d'une crise économique. Pour en parler, nous sommes en compagnie de François Bourguignon. Vous êtes professeur émérite à l'École d'économie de Paris et ancien économiste en chef à la Banque mondiale. Vous avez notamment publié, François Bourguignon, « La mondialisation de l'inégalité ». On évoquait la dette française. Cette dette française, selon toute vraisemblance, elle va s'accroître. Elle est aujourd'hui d'environ 100% du produit intérieur brut. Elle passerait à 115% du produit intérieur brut. Et vous nous disiez, François Bourguignon, que ça n'était pas si grave que cela, que ça allait augmenter les intérêts. Mais pourtant, et il semble me souvenir que un pays pas si lointain, par exemple l'Italie, a eu des problèmes il y a peu de temps au sujet de l'importance de sa dette.
Oui, c'est exact. La dette italienne, avant la crise, était de 135% du PIB. C'était effectivement quelque chose d'élevé. Maintenant, le vrai problème de l'Italie était plutôt le fait que la croissance italienne était au point mort depuis extrêmement longtemps. Pratiquement, l'Italie n'a pas cru pendant une période de presque une vingtaine d'années. Et je crois que ce qui faisait faire du souci aux investisseurs et aux marchés, c'était surtout le fait que la dette ne correspondait pas à un pays en croissance. Dans un pays en croissance, le rapport dette sur produit intérieur va diminuer si le produit intérieur, le dénominateur, augmente et si le numérateur augmente beaucoup moins rapidement. Dans le cas de l'Italie, c'était pratiquement le contraire. De ce point de vue-là, il y avait un problème. Ça n'est pas un problème qu'il y a eu en France. On avait une croissance qui était modérée, mais qui était une croissance qui était positive.
Et alors, précisément, si l'on prend des pays qui sont très endettés, par exemple le Japon, dont la dette est à 250% du PIB, le Japon a une autre spécificité, François Bourguignon, c'est que cette dette, elle est possédée par des nationaux. Le fait que la dette française augmente de 15% à la suite de cet épisode du Covid, si par exemple on proposait à des Français, personnes physiques, de racheter de la dette française si on faisait un emprunt, je ne sais pas, un peu comme ce que Pinet a fait jadis en signe de solidarité avec cet épisode. Est-ce que ça, par exemple, ça serait possible, envisageable dans un cadre européen ?
Ben justement, le cadre européen, vous venez de le dire, change assez radicalement la donne. L'un des derniers emprunts de ce type-là, c'était l'emprunt Giscard, qui a d'ailleurs été relativement catastrophique parce que peu de gens ou la souscription a été inférieure à ce qui était attendu. Mais cet emprunt, il avait lieu à l'époque du franc. Et à l'époque, on avait une banque centrale française qui, à la limite, était capable de remplacer des obligations que l'État n'aurait pas eu la possibilité de payer par directement émettre de l'émission de monnaie à l'égard des détenteurs de ces obligations. C'est quelque chose qu'on ne peut plus faire dans le cadre européen. Si des Français achètent des obligations de l'État français en euros, ces acheteurs voudront avoir la possibilité de revendre ces obligations à d'autres agents, et en particulier à des banques, et pas seulement à des banques françaises, mais aussi à des banques étrangères. Et à la fin des fins, c'est la Banque Centrale Européenne qui pourra éventuellement arranger les choses si, pour une raison ou pour une autre, l'État français n'était pas capable de faire face à ses engagements. Donc on est dans une situation qui est radicalement différente. Le fait qu'on ait perdu la souveraineté monétaire fait que on dépend de l'ensemble de l'Europe sur ses opérations d'endettement. Et c'est bien la difficulté à laquelle est confrontée l'Europe aujourd'hui. Toutes les discussions qui ont lieu aujourd'hui autour de ce que l'on appelle le Corona Bond, donc l'obligation.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est simplement un emprunt qui serait un emprunt solidaire européen. C'est-à-dire que l'ensemble de l'Europe s'endetterait pour porter secours aux pays les plus vulnérables, mais cette dette serait européenne, c'est-à-dire que n'importe quel pays européen aurait la responsabilité de repayer la dette d'un autre pays européen. Et ce qui pose le grand problème de l'Europe depuis déjà longtemps, depuis en fait la crise de 2008, c'est très exactement ça. C'est cette idée de pouvoir créer une obligation qui soit une dette qui soit véritablement européenne et non plus nationale.
Et alors pourquoi certains pays européens n'en veulent-ils pas ? Pourquoi l'Allemagne n'en veut pas ?
Parce qu'ils ne veulent pas être solidaires de pays dont ils pensent qu'ils sont moins précautionneux sur la façon de gérer leurs affaires. Et en particulier, on a cette opposition entre le Nord et le Sud. Dans le Nord, c'est aujourd'hui plutôt les Hollandais qui jouent le rôle du méchant. Les Allemands ne sont pas trop loin derrière. Mais surtout, ces pays expriment une sorte de doute par rapport aux pays du Sud qu'ils jugent laxistes dans leur façon de gérer la dette. Et donc, ils disent, si jamais on se porte solidaire de la dette espagnole, italienne, française, eh bien, on encourage ces pays-là à faire plus de dettes ou éventuellement à ne pas faire tous les efforts nécessaires pour réduire leurs dettes ou pour même repayer leurs dettes.
Bon, mais alors, la question qui va se poser pour la France, vous dites 115%, c'est un niveau de dette tout à fait soutenable. Mais on peut imaginer que des dépenses en France, des dépenses supplémentaires vont intervenir après le déconfinement. Alors, ce sont des scénarios, mais on a cru comprendre que des investissements allaient reprendre à l'hôpital, puisque le sous-investissement semble aujourd'hui évident. Il y aurait également un geste en faveur de l'éducation, de la recherche. Bref, tout cela, ça va accroître la facture. Est-ce que ça signifie que cette dette, elle va croître, ou est-ce que ça signifie qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une tentation de mener une politique d'austérité, François Bourguignon ?
Écoutez, je crois qu'il faut reprendre les choses telles qu'elles étaient avant la crise. Avant la crise, la France avait un déficit budgétaire qui était important, qui était justifié par un certain nombre d'événements, en particulier la pression sociale qui a entraîné effectivement une augmentation de la dépense publique. Et Si on revient à la situation antérieure l'année prochaine, en supposant qu'effectivement on puisse le faire, parce qu'il faut encore imaginer que l'État ne sera pas obligé de dépenser, de faire des dépenses supplémentaires, si jamais l'activité n'était pas revenue au niveau auquel elle était avant la crise. Mais ça signifie de toute façon, en prenant le meilleur des cas, qu'on va se retrouver avec un déficit qui est le même que celui qu'on avait auparavant, plus les dépenses que vous venez d'indiquer. Donc, avec un déficit de ce type-là, la dette va continuer à augmenter. Et donc, si on se retrouve à 115 à la fin de l'année, eh bien, à la fin, dans le courant de 2021, on va continuer à augmenter la dette. De combien ? J'en sais rien, peut-être de 2, 3, 4%, mais... Il y a un problème majeur dans le cas de la France qui est qu'il y a un besoin urgent de pouvoir diminuer notre déficit, d'arriver à des déficits qui soient compatibles avec au moins la stabilité de l'endettement et, dans le meilleur des cas, avec une diminution de l'endettement. Et là, il y a des grandes décisions à prendre. Pour l'instant... je ne crois pas, je ne vois pas que ce débat ait été engagé, mais si on veut dépenser beaucoup plus pour la santé, je crois que là, il y a un engagement incroyablement fort auquel le gouvernement ne pourra pas ne pas faire face. Si on va dans cette direction-là, le déficit va augmenter si on ne diminue pas d'autres dépenses. Lesquelles ? On est devant ce problème-là depuis maintenant très très longtemps. La France est un pays dans lequel le déficit a été important durant les 20 ou 30 dernières années. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, je vous fais remarquer que notre problème avec le traitement du coronavirus, le fait qu'on n'était pas prêt en termes de masques, en termes de respirateurs, etc., c'est en partie dû au déficit qu'on traîne avec nous depuis très longtemps, le fait qu'on fait des économies dans différents secteurs, et on a fait des économies dans le secteur de la santé. Et notre impréparation, d'une façon ou d'une autre, montre bien que, à cause de ce déficit, on n'a pas été capable de prévoir ce qui était nécessaire pour faire face à ce type de pandémie. Donc, ce problème est grave, et on va être obligé de le prendre à bras le corps. Il va falloir arriver à revenir à des déficits qui soient compatibles avec la stabilité ou la résorption de la dette.
Vous pouvez faire des économies, vous pouvez également augmenter les entrées, je pense bien entendu aux entrées fiscales, François Bourguignon.
Oui, bien sûr, et je pense que tout à fait normalement presque, il y aura un impôt supplémentaire sur les couches de la population les plus riches, peut-être même, c'est difficile, c'est politiquement probablement difficile, que l'ISF sera de nouveau sur la sellette, en tout cas le rétablissement de l'ISF sera de nouveau sur la sellette, mais ça n'est pas avec ça, ça n'est pas en augmentant l'impôt sur les classes les plus aisées qu'on va effectivement régler le problème complet du déficit. Il faut beaucoup plus que ça. Et comme on a déjà un taux d'imposition extrêmement lourd en France, on est le pays dans le monde dans lequel le taux de fiscalité de prélèvement obligatoire est le plus élevé, c'est assez difficile d'augmenter les impôts payés par l'ensemble de la population. Donc je crois que les économies ou le rétablissement l'équilibre budgétaire va plutôt demander des opérations assez drastiques du côté des dépenses.
Alors, on continue avec vous, François Bourguignon, à 8h34 sur France Culture, de faire ce tour d'horizon des conséquences du Covid-19 sur l'économie. On a évoqué l'économie française, européenne. Évoquons maintenant avec vous les conséquences sur l'économie mondiale et peut-être sur les pays en voie de développement. On a vu tout à l'heure, lors de la question du jour, que l'épidémie de Covid en Afrique était finalement une épidémie moins importante que prévu. C'est en quelque sorte une bonne nouvelle. La chose est à mettre entre guillemets et avec précaution. Sur le plan économique, en revanche, on a évoqué une suppression de la dette des pays africains. Quelle pourrait être pour ces pays-là les conséquences de la crise économique engendrée par la Covid-19?
Ben, si vous voulez, le cas de l'Afrique est un cas très préoccupant parce que même si le Covid-19 n'a pas un impact direct très fort sur ces économies, espérons que ce que l'on observe aujourd'hui effectivement continue dans les mois qui viennent, l'économie africaine est frappée par la récession économique mondiale. Et les estimations qui ont été faites, par exemple, par le Fonds monétaire international dans ces dernières estimations qui viennent d'être publiées, supposent que le produit par tête en Afrique va diminuer entre 4 et 5 %. C'est une crise pour l'Afrique majeure, qui renvoie l'Afrique aux très mauvais jours des années 80, début des années 90, au moment de l'ajustement structurel, où effectivement, pendant plusieurs années, l'Afrique a stagné et a accumulé un retard considérable, avec des conséquences sanitaires qui étaient importantes. Et de ce point de vue-là, on peut se retrouver dans une situation un peu paradoxale, dans laquelle les vies seraient épargnées du côté du Covid-19, mais des vies seraient sacrifiées à cause de la récession économique. Et il se trouve que j'ai fait un calcul de ce type-là récemment qui montre que avec une récession de l'ordre de 5% du produit intérieur en Afrique, et étant donné ce qu'on connaît de la réaction de la mortalité infantile aux variations du produit intérieur, on pouvait s'attendre à un accroissement de la mortalité infantile d'environ 500 000 décès dans les années qui viennent. Oui, il faut voir aussi que le nombre de décès d'enfants en Afrique est de l'ordre de d'une quinzaine de millions, entre 10 et 15 millions par an. Donc, ça n'est pas quelque chose d'énorme en termes relatifs, mais c'est quelque chose qui est déjà substantiel. Et dans l'absolu, vous voyez bien que quand on compare aux dégâts que cause le virus, ce sont des chiffres qui sont considérables. Et en plus, on sait très très bien que lorsque l'on a des crises de ce type-là qui se traduisent par de la sous-nutrition d'une grande partie de la population, on sait que les effets vont perdurer. C'est-à-dire que la mortalité, même si l'activité revient relativement rapidement, les conséquences se font sentir encore pendant quelques années. Et surtout, on sait que les enfants qui ont été sous-nourris ne développent pas les mêmes capacités cognitive, physique, que les autres. Donc, il y a un effet de long terme de ce type de crise sur les pays africains qui est considérable. On n'a pas ce genre de problème dans les pays développés parce que on a un système de protection sociale, on a un système sanitaire qui est tel que, en période de crise, on n'a pas d'augmentation extraordinaire de la mortalité. Sauf de crise économique, je veux dire. Évidemment, quand la crise est due à une pandémie, les choses sont radicalement différentes. Mais là, on a quelque chose qui me semble particulièrement grave du côté africain. Et je crois qu'il est important qu'on porte secours très rapidement à ces pays-là. Il y a déjà cette initiative d'un moratoire sur le paiement de la dette sur cette année, peut-être l'an prochain. Ça va peut-être économiser 1 ou 2% de PIB dans ces pays-là. C'est probablement pas suffisant pour empêcher les effets que je viens de décrire. Donc il y a là une urgence qui est une urgence de nouveau sanitaire, hein. C'est les conséquences sanitaires de la crise économique mondiale ou de la récession économique mondiale qui touche ces pays-là, qui sont des exportateurs de matières premières. On parlait du pétrole dont le prix entre guillemets, est tombé dans une zone négative. Mais il faut bien voir que le cuivre, le cacao, le café, le coton sont des matières premières dont le prix est en train de s'écrouler et ce sont les sources principales de revenus de ces pays.
Tandis que le prix des denrées alimentaires, lui, depuis le début de la crise du Covid-19, a tendance à se renchérir, alors même que certains pays en voie de développement, je pense par exemple à l'Égypte, importent énormément de produits alimentaires pour leur population.
Oui, alors c'est ce qui renforce l'effet dont je viens de parler. Alors, cela étant, il y a tout de même dans les zones les moins favorisées des pays africains, il y a tout de même beaucoup d'agriculture de subsistance. Et donc, de ce point de vue-là, les choses seraient éventuellement un peu moins graves. Mais le vrai problème, il est dans les villes qui, effectivement, reposent très souvent sur la nourriture importée.
Le fait qu'il y ait, en tout cas en France aujourd'hui, dans le débat public, une tentation de relocaliser un certain nombre d'activités, parce qu'elles sont considérées comme étant des activités essentielles, les médicaments, les masques, bref, toute une série de choses qui sont aujourd'hui au cœur du débat suscité par la Covid-19. Est-ce que l'on peut imaginer que là aussi, il y ait des conséquences sur les pays qui sont aujourd'hui exportateurs de ces produits? Alors à la fois que cela crée de l'emploi en France, que cela en ôte dans ces pays. Bref, est-ce que cela pourrait avoir une conséquence ou est-ce que ça resterait marginal par rapport à ce phénomène global qu'est la mondialisation, François Bourguignon?
Écoutez, j'ai pas regardé en détail cette question-là. C'est vrai que je crois que la question de la mondialisation va revenir au centre du débat une fois que la partie la plus difficile de cette crise sera passée. Cela étant, je crois que pour l'instant, il s'agit effectivement de s'assurer que un certain nombre de produits de première nécessité, notamment du côté pharmaceutique, sont disponibles et sont produits en France, que l'ensemble de la chaîne existe en France de telle sorte que on ne soit pas coincé par des problèmes d'approvisionnement en provenance de l'étranger. Est-ce que ça représente des montants ou des volumes colossaux? Je ne le crois pas. On a une industrie pharmaceutique en France qui fonctionne bien. Il se trouve effectivement que c'était plus facile de faire produire un certain nombre de principes de base en Chine et en Inde. Les ramener ne semble pas quelque chose d'extraordinairement important. Quand il s'agit maintenant des masques ou des respirateurs, de nouveau, je ne crois pas que cela remette complètement en question l'allocation des activités productives au sein du monde. Je crois que l'effet sera marginal, mais il y aura certainement une pression relativement forte de la part d'un certain nombre d'acteurs, d'un certain nombre de débatteurs sur le fait qu'il faut revenir en arrière sur cette question de la mondialisation, parce qu'aujourd'hui c'était les produits pharmaceutiques et on pourra dire bah, demain ce sera peut-être d'autres produits. Mais honnêtement,
oui, alors par exemple, pardonnez-moi, je vous ai coupé, François Bourguignon, on peut même nommer ces produits, par exemple la question des données avec la question de la 5G, on a vu que cette question était considérée comme cruciale par les pays du monde entier, mais aujourd'hui c'est une technologie qui est principalement maîtrisée par la Chine. Si d'aventure la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis s'accroissait, ce qui semble être le cas, il y aurait probablement une volonté de s'emparer de certains sujets, de certains thèmes qui sont considérés comme étant aujourd'hui essentiels, comme par exemple la 5G. Et là, dans ces conditions, que pourrait faire un pays comme la France? Quelles conséquences cela pourrait avoir pour nous, François Bourguignon?
Sur ce thème-là, qui est évidemment tout à fait antérieur à la crise du Covid-19, le problème existait déjà et cet affrontement Chine-États-Unis était déjà là. Alors, sur la 5G, j'ai peur que, à l'heure actuelle, l'Europe soit plus ou moins absente de cette confrontation, simplement parce que la technologie telle qui a été développée en Europe n'est pas concurrentielle, on n'est pas complètement dans le jeu s'agissant de cette technologie. Alors, il faudra probablement que l'Europe choisisse entre utiliser une technologie qui est soit principalement américaine ou une technologie qui soit principalement chinoise, Huawei pour ne pas le citer. C'est vrai que ça pose des problèmes, mais je ne vois pas beaucoup d'alternatives à l'heure actuelle pour l'Europe et a fortiori pour la France dans ce domaine-là. Malheureusement, on a pris, je ne suis pas sûr qu'on ait même pris le train, j'ai l'impression qu'on a laissé passer le train, alors que peut-être à un moment ou un autre, on aurait peut-être pu essayer de sauter dedans en marche, mais je ne crois pas qu'on soit véritablement dans le jeu.
Et alors, plus généralement, est-ce que cette crise pourrait fragiliser le leadership américain sur le plan économique, François Bourguignon ?
Alors ça, je crois que oui. Je crois que qu'effectivement, il y a peut-être que cette crise, c'était écrit, je crois, dans un numéro récent de The Economist ou du Financial Times, dans lequel l'article disait « Est-ce que la crise du Covid-19 n'est pas le changement de garde dans l'économie mondiale, avec la suprématie américaine qui diminue et la suprématie chinoise qui apparaît maintenant au grand jour. Et on parlait tout à l'heure de l'Afrique, mais justement de l'espèce d'offensive diplomatique chinoise en Afrique avec la crise du Covid-19, disons. On va vous procurer des masques, on va vous procurer les respirateurs, etc. Et regardez ce que nous avons fait, nous avons été meilleurs que tous les autres. Je crois que là, il y a quelque chose de relativement fort. On le voit déjà, on le voyait déjà depuis un bon moment, mais la crise du Covid-19 a montré une sorte d'asymétrie forte entre ces deux parties du monde. Maintenant, on n'est pas sûr non plus que les chiffres donnés par les Chinois sur les morts du Covid-19 soient tout à fait exacts. Maintenant, c'est vrai que les chiffres américains sont extraordinairement élevés. Donc, je pense que même si les chiffres chinois ne sont pas complètement exacts, il va y avoir une utilisation de cet argument presque de façon publicitaire faite par la Chine. Mais il est certain.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Bourguignon. Pardon de vous couper, mais à 8h47, mes camarades de la séquence TTC vont s'élancer. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'École d'économie de Paris, ancien économiste en chef à la Banque mondiale, et vous avez notamment publié « La mondialisation de l'inégalité ».